Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous retournons dans l'évangile de Jean, là où nous avions laissé le Seigneur il y a quelques semaines en arrière, juste avant cette période d'été, c'est-à-dire tout à la fin du chapitre 7 au verset 53. On se demande pourquoi ce verset dans le chapitre 7 puisqu'il concerne le chapitre 8, mais enfin, il est là, donc on commence avec lui. Jean chapitre 7, verset 53, et nous lirons jusqu'au verset 11 du chapitre 8. Jean 7, verset 53. Il est écrit que chacun s'en retourna dans sa maison. Pourquoi ? Parce que c'était la fin de la journée. Et lui, Jésus, se rendit à la montagne des Oliviers, entre parenthèses, là où il avait l'habitude, quand il était à Jérusalem, de passer les nuits. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu ?» Ben, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Mais que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Et elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Bien, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Selon son habitude, Jésus donc était assis dans la cour du temple et tôt le matin, il commençait à enseigner les Écritures. Et les gens qui étaient là se pressaient autour du Seigneur pour l'écouter. Quel moment extraordinaire que de pouvoir écouter l'enseignement de la parole par Jésus lui-même. Et j'imagine que l'ambiance était recueillie, studieuse, les gens étaient captivés, ils mangeaient, buvaient les paroles du Seigneur. Quel moment extraordinaire pour commencer la journée. Mais voilà que tout cela, à un moment, est perturbé par l'arrivée intempestive, tumultueuse, d'un groupe de religieux juifs qui traînent avec eux une femme apeurée. Et il la précipite au milieu du groupe que Jésus et ses auditeurs forment. Qu'est-ce qu'il se passe ? Apparemment, contrairement à ce qui est dit au verset 53, je ne sais pas que je dis que la Bible n'est pas vraie, mais enfin, apparemment, contrairement à ce qu'elle dit, la nuit précédente, tout le monde n'est pas rentré chez soi. Parce qu'au moins une femme s'est trompée de maison. Et elle s'est trompée de mari. Et ce n'était pas passé inaperçu. Et maintenant, comment les choses se sont déroulées, ça je ne peux pas vous dire. Comment cette femme a été dénoncée, ça je ne sais pas. Comment a-t-elle fini, elle seule, sans son amant entre les mains de ses chefs religieux, ça je ne saurais vous dire non plus. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont très satisfaits. Très satisfaits de la situation. Non pas qu'ils font grand cas de cette femme ou même de la faute découverte, mais cette femme est un prétexte, en tout cas une amorce toute trouvée pour dresser un piège à Jésus et le discréditer devant le peuple. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, d'après la loi, ordonne de lapider de telle femme. Alors toi, que dis-tu ? Aujourd'hui, je m'attarderai sur trois choses. La première sera la question de l'adultère. Et l'adultère, ne nous méprenons pas, ce n'est pas simplement un truc de religieux conservateur. L'adultère est un péché grave aux yeux de Dieu. Deuxièmement, nous verrons comment Jésus va retourner cette situation et se dégager du piège tendu. Et troisièmement, nous nous arrêterons sur la portée de la parole de Jésus donnée à cette femme. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et nous parlerons, et ce sera le sujet le plus important, de la grâce de Dieu manifestée en Jésus. Alors donc, mon premier point, et je commence donc par cela, c'est de parler de l'adultère, non pas que ce soit le sujet principal de ce texte, puisque le sujet principal c'est la grâce, mais puisque la question est là, parlons-en quelques instants. Dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 4, Paul établit que la jouissance du corps d'une femme appartient exclusivement à son mari et vice-versa. Dieu ne rejette pas la sexualité, mais elle ne se conçoit que dans le cadre du mariage. Depuis 1975, en France, l'adultère a été ôté du code civil et depuis quelques années, il est considéré non plus comme une faute qui peut conduire au divorce, mais comme comme une cause automatique de divorce, mais comme une faute qui peut conduire au divorce. Et à vrai dire, s'installe dans notre société une certaine complaisance à l'égard de l'adultère, complaisance d'autant plus facile à cause de notre vieille culture gauloise. Et même certains font la promotion d'adultère, qui est vue comme une forme d'expression de la liberté individuelle, et même pour certains comme une façon de s'épanouir dans le couple. Alors donnons une définition d'adultère. L'adultère, c'est toute sexualité en dehors des liens du mariage. Donc, toute sexualité d'une personne engagée dans un mariage, en dehors de la personne avec laquelle elle est engagée. Mais c'est aussi toute sexualité entre deux personnes non mariées. C'est aussi de l'adultère. Ça s'appelle, avec des mots qu'on ne prononce plus jamais aujourd'hui, l'impudicité ou la fornication, qui ne sont pas des formes atténuées d'adultère, mais qui sont une forme d'adultère. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15, si vous voulez le suivre, prenez-le, sinon écoutez bien ce que je dis. Voilà ce qu'écrit l'apôtre. « Ne savez-vous pas que vos corps, et donc là il parle à des disciples de Christ, vos corps sont des membres de Christ. Oui, nous avons été rachetés à un grand prix, nos corps ont été rachetés à un grand prix, et nous l'avons dit l'année dernière, ce n'est pas simplement notre cœur qui appartient à Dieu, ce qui est le temple du Saint-Esprit, c'est mon corps tout entier. Et il dit, prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Pourquoi dit-il cela ? Parce que, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire, pour être précis, que ce qui est dit là concernant la prostituée doit se dire aussi concernant la maîtresse ou l'amant, la petite amie, le boyfriend, la future épouse ou la rencontre d'un soir. Et je vais plus loin. Et quand je dis toute sexualité, je ne parle pas simplement de l'acte sexuel, parce que Jésus parle en quelque sorte d'adultère virtuel. Qu'est-ce que je veux dire ? Quand je dis toute sexualité, j'inclus aussi la pornographie. Il y a 50 ans, il fallait vraiment aller la chercher pour la trouver. Il y a 20 ans, 30 ans, elle s'affichait dans les rues sur les panneaux publicitaires. Aujourd'hui, elle est à portée d'un clic sur Google. Elle est intrusive. Elle est invasive. Elle fait des ravages parmi la jeunesse, on le sait, parmi tout âge, que ce soit même parmi les hommes ou parmi les femmes. Et elle fait croire aux hommes qu'une sexualité épanouie, c'est faire des choses qui vont au-delà de tout ce qu'on arrivait à pouvoir concevoir. Mais elle ne fait pas des ravages simplement que dehors. Elle fait des ravages dans l'Église. Pas simplement parmi les jeunes, pas simplement parmi les jeunes hommes, mais parmi tout âge et dans les deux sexes. Et c'est un défi auquel l'Église doit faire face aujourd'hui. Mais il n'y a pas que la pornographie. Je ne vais pas être cru, mais vous êtes assez grand pour comprendre ce que je vais dire. Les formes poussées d'intimité sont aussi une forme d'adultère. Mais nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. Ah oui. Je ne parle pas d'un baiser arraché à la volée. Mais quand les caresses deviennent trop intimes, ou les jeux trop intimes, là-dedans, ça s'agite. C'est une forme d'adultère. Et Jésus même dit que l'adultère commence dans les pensées. pas la convoitise. Il dit, lorsque quelqu'un regarde une femme, on pourrait dire aussi un homme, pour la convoiter, il commet adultère. Alors, laissez-moi m'arrêter un instant. Regardez pour convoiter. C'est pas que, dans ce que je veux dire, je vais essayer d'amoindrir ce que Jésus dit, mais je ne veux pas non plus que ça devienne une espèce de poids, l'air, j'ai croisé une jolie femme qui passait dans la rue, elle est passée devant moi, elle était belle, et ça y est, j'ai commis adultère. Non, c'est pas ce que Jésus dit. Et Jésus dit, regardez pour convoiter. Autrement dit, avoir un regard pesant, et non pas un regard accidentel. Je veux dire un regard déshabillant. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est regarder pour convoiter. Et là, c'est déjà un acte d'adultère. Alors, je n'exagère pas en parlant de l'extrême sévérité de Dieu à l'égard de l'adultère. L'adultère, dans la loi, était un péché qui est exposé à la peine capitale par lapidation, on le suppose. Deux commandements ont à voir directement avec l'adultère. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. La sévérité de Dieu à l'égard de l'adultère vient de ce qu'il rompt les engagements d'une alliance contractée. Et c'est d'abord l'alliance entre Dieu et Israël dont il est question. Quand Israël se détourne de Dieu pour aller vers les idoles, vers les Baals, Dieu dit, c'est une prostitution, c'est un adultère. Et je vous renvoie notamment aux trois premiers chapitres du livre d'Osée. Osée, cet homme de Dieu, ce prophète, à qui le Seigneur va demander quelque chose de difficile. Trouve une prostituée et épouse-la. Tout ça pour imager, eh bien, l'infidélité d'Israël à l'égard du Seigneur. Quant au mariage, il est considéré aussi par Dieu comme une alliance exclusive. Entre un homme et une femme, une alliance qui assure le fondement de la société et le fondement de l'Église. Alors revenons à Jérusalem. Nous sommes dans la cour du Temple, Jésus est en train d'enseigner les Écritures et une femme est donc jetée devant lui. Les religieux juifs arrivent et le pressent de répondre à leur question « Toi, que dis-tu » Vont-ils réussir enfin à mettre Jésus au pied du mur? Déjà plusieurs fois, ils ont tenté d'essayer de le décrédibiliser. Excusez-moi, faut-il payer l'impôt? Cette femme qui a eu plusieurs maris, à la résurrection, avec qui sera-t-elle mariée? Quel est le plus grand commandement? Mais à chaque fois, Jésus a su répondre avec sagesse. Mais cette fois-ci, il n'est pas simplement question là d'une vue de l'esprit, c'est une question de vie ou de mort qui est là avec cette femme. Si Jésus répond, faites comme Moïse l'a dit, lapidez-la, c'est une femme adultère. Il demeure conforme aux Écritures. Mais n'a-t-il pas dit qu'il est venu non pour juger, non pour condamner, mais pour sauver? De plus, ça c'est historique, mais cela l'exposerait à la justice des Romains, parce que les Romains estimaient qu'avec eux qui pouvaient prononcer une peine de mort. Maintenant, s'il appelle la clémence, il ne manquerait pas alors de paraître comme un opposant de la loi et comme un faux messie. Alors on pourrait dire le piège est redoutable. Et les pharisiens et les scribes le pressent, donne-nous une réponse. Mais Jésus, au lieu de répondre, toujours assis a priori, se courbe et avec son doigt a commencé à écrire sur la terre. Que n'a-t-on pas dit au sujet de ce geste? Je trouve que le geste est magnifique, il est solennel, un peu comme une pause face à l'agressivité verbale des religieux. Les gens le pressent, alors réponds-nous. Et Jésus se baisse et tranquillement, il écrit sur le sol. Comme la manifestation d'une grande retenue, d'une sagesse imperturbable. Jésus n'a pas été déstabilisé, il n'a pas été pris au dépourvu par l'agressivité de ses religieux. Jésus démontre au contraire qu'il est là comme un juge capable d'examiner la situation sans céder aux pressions des accusateurs. Dieu ne juge jamais à l'emporte-pièce. Dieu ne juge jamais d'après les accusations. C'est c'est aussi un moment unique dans les Écritures. Celui où le doigt qui a gravé les commandements de Dieu dans les tables de pierre, celui où le doigt qui a écrit le jugement de Dieu sur le mur de chaux dans le palais de Belshazzar est en train de tracer des lettres dans la poussière qui recouvre les pavés du temple. Ce sont là les seules écritures du Fils de Dieu incarné. Imaginez que ces écritures, au lieu d'être tracées dans le sable, auraient été posées sur un parchemin ou sur une tablette d'argile. Elles auraient été le plus grand trésor de l'humanité. Mais Jésus n'a écrit que dans le sable. Et ses paroles se sont emportées avec le vent. Qu'est-ce qu'a donc écrit le Seigneur ? C'est vrai que impossible de trancher définitivement. Beaucoup pensent légitimement que ce qu'il a écrit a un rapport direct avec ces hommes qui étaient prêts et qui attendaient le moindre signe pour jeter les pierres. Ils pensent aussi que ça a certainement à voir avec la parole que Jésus avait s'apprête à prononcer. En effet, après avoir écrit quelques mots, Jésus se redresse et c'est là qu'il dit cette chose, cette parole pleine de sagesse, de grâce, que celui qui est sans péché jette la pierre le premier contre elle. Quelle parole ! Quelle parole ! C'est une parole divine, n'est-ce pas ? Au milieu d'une tempête, elle vient se poser. Quelle merveilleuse parole ! En parlant ainsi, Jésus rappelle la loi. Il rappelle que les témoins de la faute, qui sont les accusateurs, doivent être les premiers à jeter les pierres. Mais en même temps, il cherche à renvoyer ces hommes à leur conscience. Il veut passer du cadre légal, qu'est-ce que dit la loi, au cadre moral, qu'est-ce que dit ta conscience. Parce que celui qui veut se faire représentant et exécutant de la justice de Dieu doit être exempt de tout péché, et particulièrement du péché qu'il estime devoir condamner chez l'autre. C'est l'histoire de la paille et de la poutre. Après avoir dit ceci, Jésus s'abaisse de nouveau pour écrire une seconde fois. Peut-être est-il en train d'achever sa phrase et il les laisse à leur pensée. Et j'imagine que l'effet a été saisissant. Cette parole, c'est une... Dieu vient de parler. Le Fils de Dieu vient de parler. Chaque mot est pesé, chaque mot les pénètre. Pénètre, vous savez, la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Elle est pénétrante. Et cette parole a dû pénétrer jusqu'au plus profond de leur cœur, de leur esprit, mettant tout à nu, à découvert. Et ces hommes ont été mis face à leur propre vie par cette parole. Leur conscience a été mise à nu devant Dieu. Et le texte nous dit qu'ils ont commencé à se retirer les uns aux autres. Ils étaient accusés par leur conscience. Qui oserait prendre la première pierre ? Toi, tu vas prendre la première pierre, mais attends. Moi, de toute façon, moi non plus. Et il nous est dit que c'est d'abord les plus anciens qui sont partis jusqu'aux plus jeunes. Et au bout de quelques instants, Jésus reste seul. Les mâchoires du piège là se desserrent. La controverse prend fin, la tension diminue. Et il n'y a plus que la femme qui est là devant lui. Jean d'ailleurs reprend l'expression du début, elle est au milieu. Elle ne s'est pas enfuie lorsque ses accusateurs sont partis les uns après les autres. Elle reste là. Elle reste là devant Jésus, attendant que Jésus se prononce à son égard. Alors, le Seigneur l'interroge, « Femme, où sont ceux qui t'accusent ? N'y a-t-il personne pour te condamner ?» Concernant cette phrase, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que Jésus lui montre qu'il n'est pas parmi ses accusateurs. Dieu n'est pas un accusateur. Dieu ne sera jamais ton accusateur. Il ne sera jamais l'accusateur des hommes. Celui qui est appelé l'accusateur, c'est Satan. Il existe d'autres accusateurs. Les hommes peuvent être accusateurs les uns vis-à-vis des autres. Oh oui, ça. Les circonstances peuvent nous accuser. Nos œuvres peuvent nous accuser. Nos pensées peuvent nous accuser. Notre conscience. Mais Dieu ne nous accuse pas. Dieu ne sera jamais procurateur. Il ne tiendra jamais ce rôle. Dieu est juge. Il n'est pas accusateur, il est juge. Et il nous juge d'après sa loi, qui est juste. Paul dit que le commandement est bon et il est saint. Et il nous juge sans avoir besoin d'un accusateur. Et quand l'accusateur se dresse et voudrait nous accuser devant Dieu, comme il est écrit dans Zacharie chapitre 3, la vision du prophète concernant le prêtre Josué, accablé par Satan, et Zacharie voit alors l'ange de l'Éternel, le Fils de Dieu, se lever, menaçant Satan en lui disant que l'Éternel te réprime. Lorsque l'accusateur se lève, le défenseur intervient. Dieu n'a rien à faire des accusations de Satan. Dieu n'est pas un accusateur. Regardons maintenant la réponse de la femme. Il y a quand même quelque chose de frustrant dans cette réponse, parce qu'au fond, elle n'exprime rien de plus qu'un constat. Alors, femme, où sont ceux qui t'accusent? N'y a-t-il personne pour te condamner? Et elle répond quoi? Non, Seigneur. Peut-être encore est-elle saisie par l'angoisse qui était là, hein, on imagine. Vous pouvez concevoir les pierres qui allaient tomber sur elle. Malgré tout, chez elle, aucune parole, elle ne réclame aucune clémence, elle ne dit rien, c'est quand même bizarre. La seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle appelle Jésus Seigneur, reconnaissant par là l'autorité de Jésus Seigneur. Alors avec cette femme adultère qui n'exprime rien, Jésus ne va pas aller sur le terrain de la compassion, il va rester sur un terrain très juridique. Et il va lui dire, je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas non plus. Jésus n'est pas son accusateur, mais il lui fait comprendre ceci à elle et au peuple qui est autour, qu'il a un autre pouvoir. Il a le pouvoir de juger et il a le pouvoir de condamner. En Israël, c'était le grand prêtre et le Sanhédrin, une cour de 72 sages qui avaient ce pouvoir. Et à l'époque de Jésus, c'était les chefs romains. Mais Jésus n'a pas ce pouvoir de la part des hommes, il l'a de la part de Dieu. Il a reçu de Dieu toute autorité pour juger les hommes. Et donc, il a toute autorité pour prononcer un jugement et même une condamnation, mais il ne le fait pas. Non pas qu'il se trouve dans la situation des pharisiens et des scribes repris dans leur conscience parce que lui est sans péché. Mais s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il y renonce pour l'instant. Pour laisser à cette femme le temps de changer de vie. Va et ne pêche plus. Il y renonce parce qu'il sait que bientôt, il sera jugé devant Dieu à la place de ceux qui viendront ensuite en jugement devant lui. Car bientôt, il va donner sa vie. Il va verser son sang pour être un rédempteur auprès de Dieu, des hommes pécheurs. Mais malgré tout, cette femme continue à nous surprendre, elle est déconcertante, elle ne dit mot, elle ne répond rien, elle reste silencieuse. Comme toute personne qui fait face à la loi, que peut-elle dire? Aucune excuse, elle est inexcusable. Elle a péché et Jésus ne remet pas en cause le fait qu'elle a péché. Romains 3, 19, Paul écrit, « Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Cette femme était coupable devant Dieu et elle n'avait rien à dire. Malgré tout, pas la moindre demande de pardon. Pas la moindre trace de repentance chez elle. Et la foi, on la cherche. Au moins, le brigand, sur la croix, a dit au Seigneur, souviens-toi de moi. Mais elle, qu'a-t-elle fait? Rien. Qu'a-t-elle dit? Rien. Et pourtant, Jésus lui dit, je ne te condamne pas, et il la laisse partir. Alors comprenons-le, ça ne vient pas d'elle. ça ne vienne pas de ce qu'elle a dit, de ce qu'elle n'a pas dit, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle n'a pas fait. Tout ce qu'elle a fait, de toute façon, est contre elle. Mais si elle part à ce moment-là, c'est à cause de Jésus. À cause de cette chose qui s'appelle la grâce de Dieu. La grâce, c'est un sujet extraordinaire, c'est un sujet merveilleux. C'est un sujet qui divise l'Église. Non pas qu'elle sépare l'Église, mais elle amène beaucoup de questions, beaucoup de sensibilités qui s'expriment. La grâce est-elle pleinement suffisante pour le salut des hommes ou doit-elle être accompagnée de quelque chose ? Certains voient la grâce de Dieu manifestée en les hommes, vers les hommes, comme l'assurance du salut définitif. Et d'autres expriment d'autres sensibilités. Et c'est ce que nous allons voir quelques instants. Non pas sous une forme théologique, mais on va quand même essayer de creuser ce que nous avons là. Et je dis donc qu'il y a d'abord ceux qui voient dans cette parole du Seigneur une démonstration éclatante de la grâce de Dieu. Le silence de cette femme met en avant deux choses. Le salut est gratuit. Nous sommes acquittés gratuitement. Cette femme n'a rien fait, n'a rien dit. Nous sommes acquittés gratuitement. Et le rôle salvateur de Jésus. Paul écrit dans Romains 3, 24, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de sa rédemption qui est en Jésus-Christ. » Existe-t-il une plus belle illustration dans les Écritures de cette parole ? Nous avons là une femme adultère, privée de la gloire de Dieu, condamnée par la loi, silencieuse devant le seul qui peut quelque chose pour elle. Et là, elle reçoit gratuitement la grâce de Jésus. Je ne te condamne pas. La non-condamnation, c'est une grâce. La question de savoir maintenant, c'est est-ce que cette non-condamnation, c'est une déclaration de salut ? Pour certains, oui. Je ne te condamne pas. Eh bien, merveilleux. Seulement, la réponse de Jésus est en deux morceaux. Et il rajoute... Va et ne pêche plus. Jésus a la puissance de dire à cette femme, je ne te condamne pas. Il a reçu non seulement tout jugement de la part de Dieu, mais s'il dit je ne te condamne pas, c'est parce qu'il sait que dans quelque temps, il va verser son sang pour elle. Aucun homme, aucune église, aucun sacrement ne peut donner la grâce de Dieu aux hommes. Seul Jésus le peut. Mais malgré tout, demeure cette parole. Si il suffit de dire « je ne te condamne pas non plus » pour que cette femme soit sauvée, alors pourquoi est-ce que Jésus lui dit ensuite « va et ne pêche plus » ? S'il lui dit cela, c'est qu'il attend quelque chose d'elle. Il attend d'elle une action, une réaction à sa parole. Et c'est là que s'exprime cette autre sensibilité. Et pour expliquer cette sensibilité qui est certainement plus proche de ce que nous enseignons dans nos assemblées, je reviens à un autre exemple, à un autre passage des évangiles, Luc chapitre 7, où il est question d'une prostituée qui vient se jeter aux pieds de Jésus et qui va quelque part laver les pieds de Jésus avec ses larmes et les essuyer avec ses cheveux. Vous rappelez ce passage ? Et au bout de ce texte, au verset 48, Jésus lui dit à cette femme, « Va en paix, tes péchés te sont pardonnés. » Ok. Maintenant, observons une nouvelle fois la femme adultère. Elle n'est pas venue aux pieds de Jésus, on l'a jetée aux pieds de Jésus. Elle n'exprime aucune repentance, aucune foi, aucun amour à l'égard de Jésus. Elle n'a versé aucune larme. Non pas que les larmes soient une démonstration de quelque chose, mais enfin, en tout cas, il n'y a rien qui est sorti de son cœur, on a compris. Alors, est-ce qu'on doit mettre au même niveau les deux paroles ? Va en paix, tes péchés te sont remis, tes péchés te sont pardonnés, et je ne te condamne pas. Est-ce que je ne te condamne pas ? C'est une déclaration de pardon. J'ai du mal à voir une déclaration de pardon dans cette parole. J'y vois plutôt comme un temps que le Seigneur donne à cette femme, un temps pour se repentir et un temps pour croire. Non pas une parole de salut définitive. À certaines personnes, Jésus a été capable de dire, de lui parler de salut. Oui, à cette femme prostituée. Tes péchés te sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. À d'autres. Là, il parle de salut. Mais à cette femme adultère, il parle simplement de non-condamnation. Mais il rajoute cette autre clause, va et ne pêche plus. En quelque sorte, nous sommes là face à une grâce. Je ne te condamne pas, c'est une grâce. Mais une grâce qui doit être fructifiée. Une grâce qui doit amener quelque chose en plus. Mais comment va-t-elle amener cette quelque chose en plus? Qu'est-ce que Jésus recherche? Il recherche la foi et la repentance. La parole que Jésus donne à cette femme, ce temps qu'il lui laisse, « Je ne te condamne pas », doit amener un changement dans sa vie. Cette femme doit mettre sa vie en règle avec Dieu, devenir fidèle. Il doit y avoir vraiment un acte de repentance. Jésus suspend la condamnation, mais il demande un changement. Elle doit changer, parce que si elle ne change pas, viendra un jour où elle devra rendre compte à Dieu. Et voyez-vous, nous sommes dans cette situation. Nous sommes tous dans cette situation où Jésus nous dit « Je ne te condamne pas ». Je ne cherche pas à savoir quelle est la situation de votre vie aujourd'hui. Mais ce que j'entends de la part du Seigneur, c'est ce message, je ne te condamne pas. Et Jésus n'est pas là pour vous accuser, pour vous mettre en accusation. Il n'est pas là même non plus pour nous juger et nous condamner. Nous sommes dans un temps qui s'appelle le temps de la grâce. Et cette grâce est offerte à toute l'humanité, à l'homme le plus méchant. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et là où il pourrait y avoir même un excès de péché, d'iniquité, la grâce surabondera encore. Et cette grâce s'est offerte à tous les hommes. Et cet après-midi, Jésus dit encore aux pécheurs, je ne te condamne pas. Mais il rajoute, va et ne pêche plus. Nous sommes comme dans un temps suspendu. Le jugement est suspendu. Pourquoi est-il suspendu? À cause du sacrifice de Jésus. Jusqu'au temps marqué par Dieu. Et chaque jour qui passe, c'est un jour de patience de la part de Dieu, pendant lequel il appelle les hommes à se repentir. Mais alors que la grâce est là, suspendant le temps du jugement et de la condamnation, le Seigneur appelle ceux qui entendent ce message à un changement radical dans leur vie. Va et ne pêche plus. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de cette femme, le texte ne le dit pas. Mais ce que je crois, c'est que la grâce, ce n'est pas une faiblesse. Certains pourraient considérer que la grâce, c'est une faiblesse. Attention, la grâce, ce n'est pas une tolérance. Parce que Jésus ne ferme pas les yeux sur le péché. Si ce n'avait été que tolérance, il aurait dit simplement, je ne te condamne pas. Mais maintenant, il rajoute, va et ne pêche plus. Mais je crois que la grâce n'est ni une faiblesse, ni une tolérance, mais une puissance. La grâce, c'est la puissance de Dieu. La grâce, c'est une puissance de conviction. De conviction de quoi? De péché, de justice et de jugement. Et quand je dis conviction, je ne dis pas d'accusation. Faites-vous la différence entre une puissance de conviction et une puissance d'accusation? L'accusation est... Je désigne personne, hein, pour mettre personne mal à l'aise. Toi! Voilà ce que tu es méchant. Ça, c'est l'accusateur. Mais la puissance de conviction du Saint-Esprit, c'est de nous mettre à nu, à découvert, devant Dieu, notre juge. Non pas pour nous accabler, nous enfoncer, mais pour nous guérir, nous relever, nous pardonner, nous purifier, nous sauver. Mais nous avons besoin d'être convaincus de la situation, convaincus de péché, la situation de notre vie. Ce n'est pas une accusation, c'est une prise de conscience. Nous avons besoin d'être convaincus que notre situation nous expose à la justice de Dieu et donc au jugement de Dieu à venir. Dieu ne nous accuse pas, mais nous dit les choses telles qu'elles sont. Et lorsqu'on reçoit cette grâce qui est une puissance de conviction, alors on rentre dans une tristesse dont l'apôtre Paul dit qu'on ne se repent pas, qu'on ne regrette jamais, parce que c'est une tristesse qui nous amène dans une repentance devant Dieu, dans un désir de changement, dans un désir de transformation. Et ça, c'est la puissance de la grâce de Jésus-Christ. Va et ne pêche plus. Ce qui est important de dire, comme je le soulignais là, c'est que le Seigneur ne dit pas « débrouille-toi pour changer hein. ». Quand tu reviens me voir, tu as intérêt à avoir mis les choses en règle. Parce que ce message, cette parole de grâce, c'est aussi une parole de puissance de foi. Et la foi va transformer nos cœurs et nos vies. Parce qu'il sait bien que ce n'est pas par nos forces qu'on va changer de vie. Mais c'est par la puissance de la parole, la puissance du Saint-Esprit qui renouvelle notre être tout entier. Et en parlant ainsi à cette femme, il l'a mis face à la réalité de sa vie. Non pas pour l'enfoncer, mais pour la relever et lui montrer la voie. Oui, tu dois changer. Profite de ce temps de grâce. Nous sommes dans ce temps parce que Jésus a donné sa vie. Alors laissez-moi encore exposer ce qu'est la grâce. La grâce a une adresse unique. Ne croyez pas qu'on trouve la grâce partout. La grâce ne se trouve qu'à un seul endroit. Cette adresse, c'est Golgotha. Il n'y a pas d'autre endroit où vous trouverez la grâce de Dieu. Vous trouvez la grâce de Dieu à Golgotha. Vous la trouvez en Jésus-Christ, mort à la croix pour nos péchés. C'est là que la grâce de Dieu s'est manifestée. Et cette grâce, c'est l'expression de l'amour de Dieu qui vient vers les hommes. Christ nous a aimés, Dieu nous a aimés. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et à la croix, Dieu nous montre sa grâce. Il vient vers nous. Mais à cette grâce doit répondre la foi. Dieu vient vers nous. À Golgotha, à nous de monter à Golgotha. Et ça, c'est la foi. Regardez ce que l'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 5, verset 1er. Nous sommes déclarés justes par la foi. C'est la foi qui nous permet d'être déclarés justes. Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, à qui nous devons d'avoir eu accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Alors des gens nous disent, mais comment un homme dépravé, comment un homme pécheur, un homme englué dans son péché toute sa vie, va-t-il pouvoir monter jusqu'à la grâce de Dieu? Il faut que la grâce de Dieu vienne jusqu'à lui. Ça, c'est l'enseignement de certains. Mais c'est sous-estimer la puissance de la parole. Moi, je crois que la grâce de Dieu est venue jusqu'à nous, jusqu'à Golgotha. Mais qu'ensuite, Dieu, à travers la puissance de la prédication de l'Évangile, à travers la puissance de ses œuvres, va agir dans nos cœurs pour nous amener à croire afin d'accéder à la grâce de Dieu. Pour que le salut soit cette rencontre. Évidemment, ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'on est sauvé. Ce n'est pas par ma volonté, ce n'est pas par mes forces. Je n'ai pas la foi pour être sauvé. Ça ne vient pas de moi. C'est le don gratuit de Dieu. Mais Dieu, par sa parole, va susciter en moi. C'est ce que Karim disait tout à l'heure en lisant Hébreux 12. Il a suscité la foi. Jésus suscite la foi. Sa parole suscite la foi. Son amour suscite la foi. Et nos cœurs, qui étaient peut-être durs, rebelle, méchant, tout ce qu'on veut. Même si on est le plus dur, Jésus est capable d'envoyer des aiguillons comme pour l'apôtre Paul pour nous mettre à terre parce qu'il nous aime et qu'il veut nous sauver. Alors, non seulement il nous donne Jésus à Golgotha, manifestation de sa grâce, mais pour que nous puissions accéder à la grâce, il nous donne sa parole, il nous donne son esprit afin que nous croyions et que nous puissions nous tourner vers le Seigneur et saisir le salut qu'il nous donne. Et cette puissance-là va aussi œuvrer en nous. Elle va œuvrer en nous pour amener la justice de Dieu en nous. Ce n'est pas simplement dire « Seigneur, je crois ». C'est « Seigneur, je crois et tu fais quelque chose en moi ». Et le fait de croire et de saisir la grâce de Dieu amène le pécheur dans la repentance. Mais la repentance, ce n'est pas simplement du remords, c'est un changement de vie. Et Dieu libère le captif, Dieu délivre le pécheur, Dieu restaure celui qui est fatigué par la vie. Et il nous donne la force de ne plus pécher. Ça, c'est la puissance de la grâce et du message de l'Évangile. Car la parole dit, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la foi vient de ce qu'on entend, pardon. Et elle vient de la parole de Christ. Alors, et simplement alors, nous pourrons dire, comme dans Romains 8, 1, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pardon. Romains 8, 1, il n'y a aucune condamnation. Laissez-moi juste voir quelque chose. Permettez-moi, je me disais, j'ai oublié un mot. Et ce mot m'a frappé alors que je l'oubliais. Quel mot j'ai oublié? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation? Jésus dit, femme, je ne te condamne pas. Tu es dans le temps de la grâce. Et je vais t'amener à changer de vie si tu crois en moi. Et quand on rentre dans cette grâce par la foi qu'on y accède, et après on dit, mais Seigneur, il n'y a maintenant plus de condamnation. Il n'y a maintenant plus de condamnation. Et la grâce qui était quelque part au début suspensive, elle devient assurée. Vous voyez l'évolution ? Parce que je laisse mon Seigneur agir dans ma vie. Je reçois sa grâce par la foi. Je reçois sa puissance qui change mon cœur. Et maintenant, c'est plus simplement une grâce suspensive en disant, « Waouh, un jour je viendrai en jugement, mais pour l'instant je suis dans la grâce. » Non, non, c'est « J'irai plus en jugement. » Parce que sa grâce a transformé ma vie. Et maintenant, j'entends le Seigneur me dire, « Tes péchés sont pardonnés. Va en paix, ta foi t'a sauvé. » Il n'y a plus maintenant aucune condamnation. Alors, puisqu'on était dans Romains 8, lisons encore ce qui vient à la fin de ce merveilleux passage à partir du verset 31. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, Dieu est pour nous. Dans ce temps de la grâce, Dieu est pour nous. Il n'écoute pas les accusateurs. Il est pour nous. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alors qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui déclare juste. Qui les condamnera? Christ est mort et bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous, il est notre avocat. Auprès de Dieu, nous n'avons pas un accusateur, nous avons un avocat qui s'appelle Jésus. Il est notre défenseur. Même lorsque je pêche, j'ai un avocat auprès du Père qui plaide pour moi. Béni soit le Seigneur. Et alors, qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est la même chose que Romains 8, 1, il n'y a plus de condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le Seigneur dit, il n'y a rien qui nous séparera de l'amour de Dieu. Et le Seigneur va nous garder, il va veiller sur nous. Mais il nous appartient aussi à nous-mêmes de veiller sur notre foi, de veiller sur notre vie jusqu'au bout. Une grâce incomparable, infinie de Dieu, manifestée envers tous les hommes et offerte à tous les hommes. Cet après-midi, il n'y a point d'accusateur dans ce lieu. Malheureusement, l'Église est trop vue souvent comme une institution d'accusation. L'Église de Jésus-Christ ne doit pas être accusatrice. Nous ne sommes pas des procurateurs. Jésus n'est pas accusateur. Dieu a remis tout jugement entre les mains du Seigneur. Et nous sommes rentrés dans un temps qui s'appelle le temps de la grâce. depuis que Jésus a versé son sang pour nous. La condamnation, le jugement, tout cela est suspendu. Et Jésus dit à chacun d'entre nous, il nous connaît parfaitement. Il y a ceux qui peuvent dire, il n'y a maintenant aucune condamnation pour moi. J'espère que vous êtes plusieurs à pouvoir dire, à avoir cette confiance dans votre cœur, cette assurance. Et peut-être certains au milieu de nous sont là comme cette femme. Alors je ne dis pas que vous êtes dans la situation de cette femme, peut-être l'êtes-vous pas, mais vous êtes dans une autre situation et vous sentez encore le poids de la culpabilité, le poids du péché qui est sur votre vie. Et je voudrais vous dire, Jésus ne te condamne pas. Il plaide pour toi, son sang plaide pour toi, mais il te dit maintenant, va et ne pêche plus. Mais Seigneur, je ne vais pas y arriver. Alors il te dit, repens-toi et crois dans la bonne nouvelle. Attache-toi à Jésus et exprime ce désir véritable, comme cette femme qui est venue pleurer aux pieds du Seigneur, exprime un désir de changement. Seigneur, je veux vraiment un changement dans ma vie. J'en suis incapable. Seigneur, change ma vie. Et j'en vois plusieurs au milieu de nous parce que je connais vos témoignages. Et vous dites, Dieu a changé ma vie. Waouh ! D'une façon extraordinaire. J'en reviens pas de tout ce qu'il a fait. Oh, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfaite. Mais quand même, je réalise tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Et Seigneur, cet après-midi, ni ne veut t'accuser, ni ne veut te juger, ni ne veut te condamner, mais il veut te sauver. Reçois sa grâce et entends sa parole. Repens-toi et crois en lui. On va incliner nos fronts, fermer nos yeux, s'il vous plaît. Et là, à la fin de ce message, je voudrais me tourner avec vous vers le Seigneur et peut-être appeler l'un ou l'autre qui est dans la situation de cette femme. En fait, pardonnez-moi la forme de la question, messieurs, mais je la posais ainsi. Quelle sorte de femme seras-tu ? Comme cette femme pécheresse ou comme la femme adultère ? Si vraiment tu as entendu ce message, alors tu comprends que tu ne dois pas simplement entendre une parole qui te dit « Ah, on est dans un temps de grâce », mais tu entends une parole qui te pousse à la repentance, qui te pousse à un changement de vie, qui te pousse à la foi en Jésus-Christ. Et ce que j'espère pour cette femme adultère, c'est qu'elle est ensuite devenue comme la prostituée qui est venue pleurer aux pieds de Jésus. Parce que je crois que c'est là la puissance de la grâce. Et cet après-midi, peut-être qu'à travers cette parole, si le Seigneur le permet, quelque chose va se passer en toi. Pour que tu ne sois pas simplement quelqu'un accusé par le péché, mais que tu sois quelqu'un qui saisit le pardon et le salut. Pas simplement la non-condamnation temporaire, mais le pardon et le salut entier. Y a-t-il quelqu'un qui veut répondre à ce message en disant « Oui, Seigneur, cet après-midi, je viens répandre mon cœur devant toi. Je veux ce salut. » Je veux pouvoir dire, il n'y a maintenant aucune condamnation dans ma vie. Je veux dire, j'ai l'assurance de mon salut. Y a-t-il quelqu'un qui veut répondre à ce message, tout simplement en levant sa main, pour dire, Seigneur, Alléluia. Cet après-midi, quelque chose se passe en moi. J'entends ta parole. Je vois des mains qui se lèvent. Y a-t-il d'autres encore qui veulent demander au Seigneur sa grâce? Dieu te l'offre. Mais il te communique aussi la foi pour un changement de vie. Y a-t-il encore une main et puis ensuite nous allons prier ensemble.